C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Mais qu'est-ce que vous êtes bien? Et même très bien sur O2 Radio 91.3, n'est-ce pas? Bon, nous sommes le mardi 24 janvier 2023, il est 14h passé de quelques secondes et bienvenue dans Ciné-100, la plus grande salle de cinéma radiophonique de la rive droite. Bon, tiens, en parlant de salle, aujourd'hui 24 janvier, nous fêtons la Saint-François de salle. Oui, le saint patron des journalistes et des écrivains, et c'est en toute modestie que pendant la petite heure à venir, nous tiendrons dans ce studio des rôles de journalistes cinématographiques de circonstance. J'accueille donc, pour partager cet instant de cinéma et de radio, mes acolytes traditionnels qui, du coup, ne sont plus anonymes. Anne-Lise et Patrick, bonjour à vous deux.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Jean-Jacques.
Comment allez-vous respectueusement?
Ben écoutez, ça va bien et vous?
Ça très bien, merci. Et vous Patrick?
Moi je vais très bien et vous-même?
Ben écoutez, je viens de répondre, il faudrait
d'accord,
m'écouter.
Ben j'ai pas écouté.
D'accord, très bien. Alors Anne-Lise,
oui.
Vous êtes là.
Oui.
Qu'a-t-on à la une de notre épisode du jour?
Eh bien, deux questions déjà.
Ah.
Alors, qu'est-ce qu'un polar? Et pourquoi regarde-t-on des flics courir après des voyous?
Voilà. Oui, ben ça, c'est, vous allez nous le dire.
Bah, j'en sais rien,
quelle
fait,
est votre réponse?
Je ne sais pas. Enfin, disons que le polar est un genre littéraire ou cinématographique caractérisant certains livres ou films et qui se distingue par la mise en scène d'une énigme policière qu'un ou plusieurs protagonistes tentent de résoudre.
C'est QFD.
Eh oui. Eh bien, c'est peut-être ça aussi, le fait de résoudre une enquête, de poser des questions et de tenter d'y répondre. La sortie en 2022 du déroutant Decision to Leave de Park Chung-wook nous rappelle ô combien que le polar s'adapte à merveille au cinéma. Il ne me reste plus qu'à compter jusqu'à 5.
Allez, ah bon?
Alors, 1, 2,
3,
4,
5.
5.
Et pourquoi 5?
Eh bien, voici un top 5 des polars à voir, selon moi.
D'accord.
Hein, bien sûr. On va commencer par, petit 1, Le Faucon Maltais de John Huston, l'adaptation du roman de Dashiell Hammett, qui a donné un nouveau souffle au grand Humphrey Bogart.
Oui, alors ça, c'est votre... Vous le classez par ordre de préférence ou non?
Ou plutôt par ordre de...
De ressenti,
de sortie, voilà.
Alors en 2?
En 2, j'en suis où? J'en suis là.
En
Le
deux.
Plein Soleil,
oui.
De René Clément.
Oui.
Adaptation du talentueux Monsieur Ripley de Patricia Highsmith. Ce thriller a révélé notre cher Alain Delon, qui devient dès lors une véritable star.
Très cher, il
paraît. Eh oui, très cher. 3. Le silence des agneaux de Jonathan Demme, d'après le roman de Thomas Harris.
Oui.
Bon, autant vous dire que le film a raflé tous les Oscars en 92.
Enfin, presque. Hein.
Oh, oui. Ouais, enfin, pas tous, mais une bonne partie quand même.
Oui, oui.
Petit 4.
Oui.
Les rivières poupes. Pourpre de Mathieu Kassovitz, d'après le roman éponyme de Jean-Christophe Granger.
Oui.
Et dernier du classement, adaptation du roman d'Harley Coben, ne le dit à personne.
Ah, qui est passé hier soir.
Tout à fait. Ouais, de Guillaume Canet en 2006.
Ah, 2006.
Eh oui.
Ah, mais on est hors cadre.
Bon, alors là, on est un peu hors cadre, hein,
de
niveau ciné-sans.
Oui. Bon, ça fait rien.
Eh oui. On le voit, le polar provient souvent du roman. Mm-hmm. Un bon polar, il faut l'écrire. Le vivre, le ressentir. Et c'est ce que nous allons tenter de faire dans cet épisode numéro 17 de Ciné-100 qui s'intitule 22 Levla.
Oh bah j'ai tellement peur, ma feuille tremble, alors j'arrive du mal à lire. Et pour commencer, donc, nous avons Rigby Reardon, détective privé de son état, qui reçoit chez lui la ravissante Juliet Forrest.
Hastings? Sam Hastings.
Qui c'est?
Je m'appelle Reardon. J'ai une proposition à vous faire.
Pas aujourd'hui. Il faut vraiment que ce soit aujourd'hui.
Oui.
Revenez mardi.
J'ai du pognon pour vous.
quel pognon?
Doit y avoir un dollar caché dans votre sucrier. Je vous offre 5 dollars pour ce billet. Vous pourrez boire quelques bons coups avec ça.
Attendez une minute.
Regardez dans le couvercle.
Oh, c'est bien l'autre morceau. Plusieurs noms sont illisibles, mais vous pouvez enquêter sur Kitty Collins et Sweet Anderson.
Alors si Juliette s'adresse à Rigby, c'est pour lui demander de retrouver son père, un savant réputé et célèbre fabricant de fromage, qui a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Pourtant, avec du fromage...
Reardon se
met immédiatement au travail. Voilà, ça c'est la situation de départ. Des cadavres ne portent pas de costard, sorti en 82. Une jeune et ravissante cliente d'un sempiternel détective privé... Oui, alors cela ne change pas beaucoup des films noirs classiques, Patrick.
Non, en effet, on est bien d'accord là-dessus. Bah, oui. Mais alors, ce qui différencie ce film des autres films noirs, c'est son casting invraisemblable. Sont réunis des gens aussi talentueux et adulés que Kirk Douglas, Bette Davis, Bogart, Lancaster, Lana Turner, Gary Grant, j'en passe, et non des moindres, tout ça en 82.
Et comment le réalisateur s'y est-il pris? Et surtout, qui est-il?
Alors, le réalisateur, c'est Karl Reiner. Mmh. Il a déjà commis quelques films avec son comparse. Mais comment s'y est-il pris? Pour avoir une telle distribution, rien de plus simple. Il a tout simplement mélangé des séquences des films des années 50 à la narration de son propre film.
C'est Woody Allen qui avait procédé pareil avec dans Zelig.
Dans Zelig, oui, tout à fait. Ouais.
Bien avant la numérisation, il avait réussi cet exploit de mettre son personnage principal dans des séquences et d'images antérieures historiques.
Oui, tout à fait. Il rencontrait Gandhi, il rencontrait plein de gens. Il était vraiment.
Charlie Chaplin.
Et Charlie Chaplin aussi, ouais. Mais alors, chez Reiner, le procédé est un peu différent.
Ah bon?
Parce que lui, il joue sur le comique de situation en prenant des images, en collant des dialogues absurdes dans la bouche de son héros, mais des dialogues qui collent parfaitement à la situation, entre guillemets, dramatique des films initiaux. Ce qui renforce donc le côté comique. Car oui, en plus d'être une véritable prouesse technique, c'est un film comique.
On peut supposer que René a visionné un grand nombre de films, quand même.
Oui, je pense qu'il en a vu un paquet. Parce que là, il y en a 19 qui sont référencés au générique, quand même. Bah, c'est un travail de titan pour Reiner. Et il faut quand même citer son monteur, Bud Mullin, qui ont fait tous les deux un travail remarquable.
Un film qu'on aurait pu appeler pour une poignée de films. Vous pouvez nous donner un petit échantillon des films choisis.
Bon, alors, je vais vous en donner 3. D'accord.
Allez-y.
Le Faucon Maltais, dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà.
Le Grand Sommeil.
Oui,
et Le Facteur saute toujours deux fois.
Oui.
Voilà. Une ribambelle de films noirs à forte imprégnation de pègre et de police. Et le rôle du détective privé a toujours connu la gloire. Bon, voir Philip Marlowe, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Et rendre hommage, même en le parodiant, ne pouvait que se faire sans rendre hommage au privé qui hante ses films.
Oui, tout à fait. Alors, côté musique, c'est le compositeur Miklos Rosa qui a fait la musique du film. Rosa qui avait travaillé avec Hitchcock, William Wheeler et même Alain René d'ailleurs. Mmh. Il a travaillé sur la maison du docteur Edward, sur Ben-Hur, sur Ivanhoe, tout ça.
Alain René, ça?
Non, je vous rassure. Et là, pour ce film, il signe sa dernière musique de film. Et voici quelques extraits de son œuvre.
Thank you.
Le film dont nous allons parler maintenant débute par un très long plan séquence qui plante parfaitement le décor et traduit une atmosphère pesante et inquiétante.
Alors le film, c'est La soif du mal d'Orson Welles, sorti en 58. Le plan séquence en question débute avec une main qui règle la minuterie d'une bombe à 3 minutes dans le coffre d'une grande limousine blanche. Puis on entend le tic-tac de la minuterie sur fond de fausse salsa. La tension monte alors que la caméra montre l'auto roulant dans les rues bondées d'une petite ville frontalière mexicaine, avec le couple dans l'auto, sur le point d'exploser. Et le final est à la fois terrible et intelligent. Tout juste 3 minutes après le début de la scène, il y a 2 explosions qui se produisent. Le baiser entre Charlton Heston et Janet Leigh, puis l'inévitable explosion de la bombe.
Alors, Orson Welles a fixé la barre très haut pour ce plan séquence d'ouverture.
Combien il dure
3 minutes 26. Oui, c'est des montées de grues, des descentes de grues, c'est absolument fabuleux.
Alors, c'est la saison en plus.
Ouais, c'est ça. Elle vole haut dans le ciel. Une trouvaille qui sera abondamment reprise et dont nous n'allons pas vous proposer d'extrait sonore. Voilà. Et vous comprendrez qu'il est très difficile de vous faire écouter un plan séquence sans l'image.
Oui, ça.
Pour le reste, nous sommes donc à Los Robles, la ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un notable meurt dans un attentat. L'enquête qui s'ensuit oppose 2 policiers, Ramon Vargas, Charlton Heston, au fonctionnaire de la police mexicaine en voyage de noces avec sa jeune épouse américaine Suzanne, Janet Leigh, et Hank Quillan, Orson Welles himself, peu amène vis-à-vis de ce fringant étranger. Dès lors, le couple est séparé. Vargas part avec les policiers pour les besoins de l'enquête et Suzanne est entraînée chez Grandi, un caïd local qui la menace. Les pressions exercées sur eux ne cessent d'augmenter. Vargas échappe de justesse à une projection d'acide. Suzanne, de retour dans sa chambre d'hôtel, est harcelée par un voyeur. Excédée, elle demande à son mari de la conduire en sécurité dans un motel américain.
Alors, le film, bien, il décrit la lente désagrégation d'un personnage dépassé par sa compromission grandissante avec le mal, d'où le titre. Le film fut un échec public, il ne faut pas se le cacher. Et il a été envenimé par les relations tumultueuses du cinéaste avec le studio. À tel point qu'il marquera ce film, La soif du mal, le point final de la carrière américaine de Welles.
Oui, quand même.
Ah oui.
Alors, outre Charlton Heston, Orson Welles et Janet Leigh, la distribution comprend également Marlène Dietrich, Hakim Tamiroff et Dennis Weaver.
Ah oui.
Le futur automobiliste pourchassé, vous savez, dans le film de Spielberg, Duel,
Le
gars qui est pourchassé par un camion.
Oui.
Alors, c'est Henry Mancini qui a écrit la musique du film, artiste prolifique, il accédera à la popularité en 63 grâce à la musique de La Panthère Rose de Black Edwards.
Thank you.
Compte que le thème d'ouverture est moins long que le plan séquence.
Absolument.
C'est incroyable.
Alors quoi ?
Doberman, c'est une race de chiens,
oui.
Mais c'est aussi un film français réalisé par Yann Koonen, sorti en 97. Et Annelise, vous allez nous proposer un petit synopsis du film.
Le Doberman et sa bande sont des pros de l'attaque de banques et de fourgons blindés. Aussi intéressés par le shoot d'adrénaline que par l'argent, cette bande criminelle est composée de Yann, donc le Doberman, Nat, son égérie sourde, Moustique, un petit teigneux, Pitbull, spécialiste des attaques de boutiques de luxe à la hache, Manu, le frère de Nat, l'abbé Sonia, un travesti, et Léo.
Alors avec eux, il y a quand même le commissaire Sauveur Cristini, qui est un psychopathe sadique, qui voit là une occasion de se dérouiller un peu. Alors il envoie promener l'IGS, l'administration et toute sa paperasse, et accompagné de l'inspecteur Bowman, il se lance à la poursuite du Doberman. Aussi bestial que le gang qu'il poursuit, Cristini va tout faire pour renvoyer celui-ci dans un trou bien profond, 6 pieds sous terre. Bande annonce.
C'est ça le fameux Doberman ?
Oui, c'est ça le fameux Doberman.
Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts.
Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a visé tout le monde au mur.
C'est beau.
C'est Noël.
Ça sent le sapin.
Vas-y, shoot.
Allô,
c'est Yann.
Ah, excuse-moi, je croyais que c'était encore ma femme.
Braquer les banques pour le plaisir, c'est pas humain. On n'a pas le droit de mépriser l'argent comme ça.
Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne.
The Doberman.
On nage dans la poésie complète.
Ah, le Doberman opère sa ruée vers l'or. Oh, le shérif fera tout pour avoir sa peau. Nous sommes en présence d'une révision totale du western, puisqu'ici, il est urbain. Si les enjeux restent les mêmes, même code, même mise en place de duel, le bitume a remplacé le sable, les lance-roquettes ont remplacé les colts six coups et les voitures puissantes ont remplacé les diligences.
Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que le montage est speedé aux amphétamines. On va dire ça. Et il est destiné à faire monter l'adrénaline, comme vous avez dit tout à l'heure, du spectateur. Yann Koonen assure que son film est, alors je le cite, plus proche de la BD que du néo-réalisme. En tant que tel, il peut se permettre tous les excès. Et il le fait.
Et il le fait. Et
tout
alors,
à fait.
Le corollaire de tout ça, voilà. C'est que le spectateur n'est pas épargné.
Celui qui regarde le film.
Oui. Voilà, le spectateur, donc. À grand renfort de plans hallucinants et hallucinés, de roquettes, d'une réserve de cartouches illimitées, du tableau presque bucolique d'une route de campagne, à une boîte de nuit zonarde, ça ne s'arrête jamais. Ça n'épargne personne, le tout sur un rythme dément, avec très peu de temps mort. Ouf.
Pour ce faire, le film alterne le comique, la préparation des attaques de banque, au suspense, les différentes méthodes des flics, revient au comique pour finir sur l'action et le gore, le duel des deux gangs. On suit cette bande de voleurs et on suit la police qui cherche à les arrêter. Niveau casting, quand même, Vincent Cassel et le Doberman.
Il n'était pas très connu à l'époque.
Oui. Non. Ouais, c'est vrai.
Parce que la haine n'était pas sortie, je crois.
Tout à fait. Checky Cario, le commissaire Cristini.
Ah oui, l'excellent.
Et la distribution compte également Monica Bellucci, Nathalie Vidal ou encore Romain Duris. Tout à fait, tout jeuneau dedans.
Ah oui.
Et oui, alors extrait de la bande originale, voici Voodoo People par The Prodigy. Mmh.
Alors, il était une fois Delon. Delon, son chapeau, son imperméable couleur mastic, son flingue, son regard, sa présence magnétique, son charisme fait d'arrogance et de certitude. Bref, Delon tout entier dans Le Samouraï, réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en 67 et dont voici le pitch.
Jeff Costello est un tueur à gages chargé d'abattre un patron de boîte de nuit. Il verrouille tout son alibi. D'abord, sa petite amie, femme aux mœurs légères, puis des joueurs de cartes dans un club privé. Une fois que tout cela est fait, il va exécuter sa cible, se débarrasse de ses gants, jette son arme dans la Seine et rentre dans sa petite chambre de bonne où il élève un petit oiseau.
Et tout ça en toute impunité.
Non, alors il y a un hic quand même dans le scénario, dans ce que Costello a imaginé, il y a quand même un truc qui ne va pas. Au cercle de jeu, les témoignages divergent.
Ah, bon.
Il semble qu'il ne soit arrivé qu'après 2h du matin, ce qui, selon le commissaire chargé de l'enquête, lui laisse tout le temps de mettre le contrat à exécution. Mmh. Alors Costello est arrêté, mais faute de preuves, il est relâché. Mais cependant, la police continue d'avoir un œil sur lui.
Comme on dit, que fait la police ?
Ah. Oui, que fait la police ? Eh bien, elle pose un micro dans la chambre. Ce qui a pour effet d'exciter l'oiseau, d'ordinaire si placide. Costello, bien sûr, se rend compte que quelque chose ne va pas et il trouve le micro sans peine et très vite.
Ah bah oui.
Nous sommes en présence d'un film noir classique.
Oui. Ah oui, complètement classique avec tous les codes de ce que ce genre possède. Le flic obstiné, incarné ici par François Perrier, remarquable. Le voyou au sang-froid, au regard laser, mais il y a surtout un remarquable cinéaste, Jean-Pierre Melville, féru de cinéma noir américain.
Oh là là,
oui, là on est dans le lourd hein, quand même. Hein. Les réalisateurs de films noirs étaient légion dans les années 60, il y avait Grangier, Lautner et d'autres, mais à mon sens, aucun n'égale la qualité et la précision de Melville. Le Samouraï est un film de qualité française, comme on disait à l'époque, des films bien faits, bien écrits, bien réalisés et surtout bien joués. Et Delon est un superbe acteur quand il est entre les mains de réalisateurs comme Visconti, Verneuil et bien sûr Melville.
En août 67, Melville revenait sur la genèse de son film.
Quand Alain Delon m'a demandé de tourner avec lui un film il y a quelques mois, j'ai commencé par lui proposer des livres. Les questions de droit étant très compliquées, j'ai dit à un moment donné, mais sans y croire une seconde parce que j'en avais pas tellement envie, j'ai écrit un scénario pour vous il y a 4 ans. Tiens, ça m'intéresserait, faites-le-moi lire. Et puis c'est vraiment à regret qu'un soir je lui ai lu. Et puis il a dit, je tourne ça, Jean-Pierre et rien d'autre.
Mais pourquoi Le Samouraï ? Ça va pas tromper les gens, un titre japonais pour un film qui n'a rien de japonais ?
Oui, c'est possible. Je crois que le titre m'est venu de deux choses différentes. La première, c'est que j'ai trouvé une fois à Delon un petit air japonais. Bon, disons que ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est une phrase du Bushido qui est la Bible du samouraï, qui est le livre qui règle la vie des samouraïs, qui dit qu'il n'y a pas de plus grande, de plus profonde solitude que celle du samouraï. Comme j'avais envie de faire un film sur la solitude, je me suis dit que peut-être le personnage d'un tueur à gages, c'est-à-dire d'un ronin, je vais faire un ronin moderne, perdu dans une ville, avec cette façon d'être et de vivre d'un samouraï.
Le Bushido.
Alors le Bushido, oui, Melville parle du Bushido. En fait, il semblerait que la phrase ne soit pas du Bushido, mais de Jean-Pierre Melville lui-même.
Bon, très bien.
Il voulait peut-être donner un aspect un peu plus...
Japonisant
à son propos. Alors, à propos de sa vision du métier de comédien, voici ce que Delon disait.
Ma carrière n'a rien à voir avec le métier de comédien. Comédien, c'est une vocation. C'est la différence essentielle entre Belmondo et Delon. Je suis un acteur. Jean-Paul est comédien. Le comédien joue, il passe des années à apprendre alors que l'acteur vit. Moi, j'ai toujours vécu mes rôles. Je n'ai jamais joué. Un acteur est un accident. Je suis un accident. Ma vie est un accident. Ma carrière est un accident.
Vous faites remarquablement Delon.
C'est beau.
Oui, c'est beau.
La musique du film est signée François de Roubaix.
Oui.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Eh bien, je vais vous le dire, sur 91.3, eau de radio, bien entendu.
Merci.
Au sous-genre du film policier, qui est le film noir dont nous parlions avec le samouraï, est souvent associée la femme fatale, qui incarne le mal et tient une place fondamentale. Comme par exemple en 1946, Gilda de Charles Vidor, Rita Hayworth.
Oui, alors ça, c'est sa belle-sœur qui tenait une boulangerie. Non, elle, c'est Rita Hayworth.
Voilà, très bien. Mais je savais que vous alliez me reprendre.
Oui.
Il est l'archétype de la femme fatale, superstar reconnue par sa sensualité. On se rappelle du célèbre jeu avec la censure, montrant Rita ôter son long gant noir dans un striptease fortement suggestif.
Et oui, et dans ces années 40, qui ne parlait pas d'égalité, les femmes sont perçues comme une menace potentielle. La femme fatale est sexy, intelligente et blasée, mystérieuse, ambitieuse. Et elle manipule les hommes, littéralement subjugués.
Elle est à la fois drogue et poison, mais aussi objet de fascination et d'effroi. Bref, elle joue un rôle très négatif.
Oui, alors, bon, il faut dire qu'à cette époque, il existe un véritable retour au conservatisme lié aussi au maccartisme qui va frapper un peu plus tard, mais guère plus tard, et ainsi qu'un réel relent de misogynie dû au fait que les femmes aient joué un rôle économique important lors de la guerre. Ouais, on part de loin quand même.
Mais finalement, si les femmes fatales manifestent un tel comportement, c'est parce qu'elles désirent prendre leur revanche sur les hommes.
Bah, bien sûr.
Elles les obsèdent. Ils veulent à tout prix la gagner par orgueil masculin. Elle est alors réduite à un faire-valoir dont la beauté et la jeunesse doivent se refléter sur eux. La femme fatale qui manipule les hommes pour parvenir à ses fins ne fait qu'utiliser les uniques armes qu'on lui laisse pour exercer un minimum de pouvoir. Elle ne fait que rejoindre les revendications féminines des dernières décennies, à savoir l'égalité des salaires, l'égalité des chances et l'égalité des droits.
Alors, on est loin du film noir, hein, quand même. Hein. Mais si on parle des actrices qui ont incarné ce personnage, c'est parce que leur apparence compte beaucoup. La vamp, ce doit être belle à faire peur, même si cette beauté cache souvent son passé ténébreux.
Alors, parmi ces actrices, en plus de celles qu'on a citées, on peut évoquer Ava Gardner dans les années 40 et Lana Turner. Hein. Avant, il y a eu Marlène Dietrich. Je crois que c'est Nougaro qui disait « Marlène Dietrich, son nom commence comme une caresse et finit comme un coup de fouet ». Il n'avait pas tort. Hein. Et Greta Garbo. Et plus près de nous, Marilyn, évidemment, Marilyn Monroe dans Niagara et Sue Lyon, version adolescente, dans Lolita.
Les films modernes adoptent une approche plus subtile de ces archétypes. Bah oui, les femmes fatales sont devenues plus que de simples femmes-objets, des femmes fortes et puissantes.
Comme
ainsi, Faye Dunaway, on peut dire Sharon Stone, ou alors Charlize Theron.
Il y en a des comédiennes.
Entre autres,
y en
tout
a,
à fait.
Il y en a plein.
Alors, on part où maintenant?
Après, on part où? On part au Japon, pas au Pérou. Alors, mais après avoir débuté dans la BD, Satoshi Kon rejoint le domaine du film d'animation en 1997 avec Perfect Blue, qui est à la base un roman écrit par Yoshikazu Takuishi.
Oui.
Je parle japonais couramment, comme vous pouvez vous en rendre compte.
Bon, alors, il a été demandé à Kon de l'adapter en film d'animation destiné au marché vidéo. Bien qu'intéressé par le projet, Kon ne partageait pas la vision du roman et il décida alors de développer un scénario davantage en adéquation avec ses thématiques personnelles et avec sa vision de l'histoire.
Nous suivons donc Mima, jeune chanteuse à succès, qui au sommet de sa gloire quitte le groupe dont elle fait partie pour se lancer dans une carrière d'actrice et rejoint le casting d'une série dramatique au penchant assez psychologique et violent, Bande Annonce.
Mima, 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 Mima.
Merci, mais de quoi parle-t-il?
Oh, excuse-moi, je suis crevée. Je pense que ça doit être une homepage.
Bienvenue chez Mima.
Mima a tout simplement l'intention de quitter notre groupe.
Il lui propose un rôle dans sa nouvelle série.
J'espère avant tout devenir une grande actrice.
Action!
Il n'en est pas question.
Le photographe avec qui tu as bossé y est passé aussi.
Quoi? Comment? Ne te fais pas de soucis, jamais je ne changerai. Je suis là et je serai toujours avec toi. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi. Qu'il apparaisse quand on s'y attend et qu'il vienne se mettre à rôder. Mais qui es-tu? Tu ne pourras plus jamais revenir dans la lumière.
Alors, le film débute donc en se construisant sur les bases d'un thriller standard où Mima, sans le savoir, devient la cible d'un harceleur anonyme associant obsession et voyeurisme. On pourrait le comparer à Obsession de Brian De Palma.
On fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut, oui.
Mais le premier long-métrage de Satoshi Kon donne un style très différent au fur et à mesure de l'intrigue. Mima connaît une véritable descente aux enfers mentales et le spectateur la suit dans un véritable tourbillon psychologique où tout se mélange, réalité et illusion. Ce film d'animation se rapproche dans sa réalisation de ses grands maîtres du polar tels que David Lynch, ou Hitchcock.
Oui, là, vous avez des références énormes. Hein.
Ah ben, vraiment, vraiment, pour ce film, oui.
Oui, vous avez raison, d'autant plus que Perfect Blue aborde différentes thématiques intéressantes. Quoi. La critique du star system, où l'on crée des idoles, qui sont souvent des jeunes filles, d'ailleurs. Et d'ailleurs, trop jeunes pour le public qui les suit, généralement, très masculin.
Et oui. Ouais. Autre thématique, le décalage problématique entre l'innocence de ces jeunes filles et la sexualisation de leur apparence. Ah. Qui attise les désirs et les fantasmes, s'intégrant parfaitement dans la logique de ce thriller psychologique qui se veut très viscéral. Satoshi Kon fait de Mima la victime d'un système où les stars sont comme des produits jetables, qui suscitent la passion autant qu'elles peuvent susciter la haine. Le cinéaste s'avère plutôt visionnaire en montrant ce mystérieux harceleur qui sévit sur Internet, car en 1997, Internet n'avait pas l'impact qu'il a aujourd'hui.
C'est sûr.
Et oui.
Quand on sait qu'il est sorti en 97 ce film et qu'on voit aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a sur Internet avec les idoles et les choses comme ça, c'est assez visionnaire.
Oui, toutes ces formes de harcèlement dont sont victimes justement aussi les personnes, les célébrités, tout ça. Et alors avec ce premier film d'animation, Satoshi Kon nous montre un polar sombre, visionnaire, où réalité et imaginaire se mélangent. Ce film ne laissera personne indifférent. La musique est signée par Masahiro Ikumi,
ah oui,
dont Season. Elle chante bien en plus, enfin, la voix est agréable.
Vous connaissez le nom de la chanteuse ?
Pas du tout, peut-être
non.
Vous.
C'est Biba.
D'accord. Alors, on va changer de continent.
Oui.
Le réalisateur George Roy Hill a connu son apogée grâce à deux films devenus des classiques.
Ah oui.
D'un côté, Butch Cassidy et le Kid, et de l'autre, L'Arnaque, réalisé en 1973. L'Arnaque qui remporta 7 Oscars.
Allons-y.
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénariste, meilleur décor, meilleur costume, meilleure musique, meilleur montage.
Ouf.
Alors, de quoi est-il donc question dans ce film ? C'est vous, Patrick, allez nous le dire.
Eh bien, je vais vous le dire. Dites-nous. Nous sommes en 1936 à Joliet, dans la banlieue de Chicago, au plus fort de la Grande Dépression. Johnny Hooker et son acolyte Luther Coleman volent sans le savoir un homme de main de la mafia de New York, convoyeur de fonds de Doyle Longan, un dangereux gangster.
Arrêtez-le! Il a mon portefeuille! Rattrapez-le! Il a mon argent! Mon portefeuille!
Non,
il a mon portefeuille!
C'est nous qui l'avons!
Rendez-le-moi!
Qu'est-ce qui s'est passé?
Rendez-le-moi!
Il vous a donné un coup de couteau? Ne bougez pas, il vous faut un docteur, je vais chercher un flic.
Non, 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 n'y allez pas!
Les flics vous recherchent, si je comprends bien.
Non, j'ai rien à me reprocher.
Mais vous êtes siphonné de vous trimballer avec ce paquet, c'est imprudent.
Merci. Merci mille fois, mais il faut que je parte.
Non, pas dans cet état!
Il le faut pourtant. Je travaille pour une équipe de West Bend. Je m'occupe de leur machine à sous. Je suis un peu à la bourre dans mes versements, alors ils s'imaginent que je m'en mets dans les poches. Ils m'ont donné jusqu'à 4 heures pour livrer le liquide. Si je suis en retard, ils me descendront.
Il y a de l'eau dans le gaz, grand-père, il va se faire 4 heures.
Je vous donnerai bien 100 dollars pour que vous les remettiez à ma place.
Le mec qui vous a attaqué, il veut ma peau. Vous voyez pas qu'il m'attend au coin de la rue avec des copains?
Mais il saura pas que vous avez l'argent sur vous. Je vous en prie, monsieur, tirez-moi d'affaire.
Ah, ne m'en veillez pas, hein. Je veux bien appeler un toubib et vous faire rafistoler, mais je tiens pas du tout à me faire suriner pour vous.
Vous accepteriez, vous n'auriez qu'à glisser le paquet dans la boîte aux lettres. Je vous filerai les 100 dollars.
Et vous avez confiance en ce type alors qu'il vient de s'écraser?
Oui, ben écrasé aussi, foireux. J'ai bien rendu son portefeuille, non? Alors votre truc où ça perche?
1811 rue Mason. Vous mettez-le dans la boîte 3C.
3C.
Vous n'aurez pas d'ennui. Dans cette enveloppe, il y a 5000 dollars. Et ces 100 dollars, eh ben, c'est pour vous.
D'accord, l'ami, je vais faire votre livraison. Et n'ayez crainte, je suis de confiance.
Oui, inutile de vous dire que l'argent n'arrivera jamais.
Oui, c'est étonnant.
Bon, oh,
oui.
C'est...
Et donc, à la suite de ça, Anne-Lise.
Oui, Coleman va être aussitôt défenestré par voilà. Les hommes de main du mafieux. Hooker, lui, se réfugie chez Henry Gandorf. Un spécialiste de l'arnaque. Il décide alors de venger la mort de Coleman en élaborant un plan machiavélique et risqué, destiné à mettre Longan sur la paille. Pour cela, Hooker fait croire au gangster qu'il est capable d'obtenir les résultats des courses avant qu'il ne soit officiellement connu.
Alors, l'arnaque, le film, constitue une sorte de charnière entre les travaux de la génération montante d'auteurs comme Spielberg, Lucas, Friedkin et Coppola, et le savoir-faire de la vieille école, personnifiée donc par George Roy Hill. Quels sont ces ingrédients magiques qui en font un film intemporel? Eh bien, il suffit de vous dire deux noms pour tout comprendre, Paul Newman et Robert Redford. Le duo composé d'un arnaqueur impulsif au charme fougueux et d'un comparse bien plus posé et calculateur fonctionne sur le contraste des deux acteurs. La paire Redford-Newman, qui rivalise de charisme pour séduire le pigeon, est l'une des plus réussies d'Hollywood. George Roy Hill s'est amusé à recréer les années 30 ou en les exagérant juste ce qu'il faut.
Le film appartient désormais à la mémoire collective grâce à plusieurs éléments indémodables. Le plaisir du spectateur, tout d'abord. On se laisse piéger avec délectation tant le retournement de situation et autres coups de théâtre sont finement amenés.
Alors le film s'inspire de l'histoire des frères Charley et frères Gondorf, arnaqueurs de haut vol. Ils passèrent à la postérité suite à un coup semblable à celui du film en 1914. En 1924, alors qu'ils avaient 60 et 65 ans, les deux frères n'avaient toujours pas cessé leurs escroqueries.
Comme quoi, retraite à 64
oui.
ans.
Hein, ah, oui. Oh là là, allons-y.
Alors, la musique d'ouverture met dans l'ambiance directement. C'est un ragtime entêtant, joyeux et enlevé qui achève de référencer le film dans un coin de notre esprit. Vous allez le reconnaître clairement. De suite. C'est The Entertainer, composé en 1902. C'est l'œuvre de Scott Joplin.
Thank you. fois, j'ai vu les mêmes films qui repassent, comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
C'est dingue. C'est vrai que c'est ahurissant.
Et oui, c'est dingue. Et vous avez reconnu le petit jingle pour notre petit... ciné-canapé, ciné-télé-canapé. Donc, on va vous faire un petit récap de ce qui se passe cette semaine.
À la télé. Au niveau des films.
Bah, bien sûr. Oui, bien sûr, au niveau des films. Ouais, on n'est pas là pour tricoter des perles.
On part aujourd'hui, ça.
On va par aujourd'hui.
Aujourd'hui, ce soir.
Ce soir.
Alors
moi, j'en ai
deux. Rien.
Moi, j'ai Canal Plus 21h10 coupé de Michel Hazanavicius. Ouais. Avec Romain Duris, Bérénice Bejo et Grégory Gadebois.
Oui.
La réadaptation d'un film d'horreur japonais, si ça vous dit. Ouais. J'ai L'homme des vallées perdues de George Stevens avec Alan Ladd, Jack Palance.
Western.
Un western. Évidemment. Ça, c'est sur C8 à 21h20.
Un accord. C'est tout pour ce soir.
Demain, mercredi.
Moi, j'en ai un.
Aussi. Oui.
Bon.
Pareil.
Allez-y.
Alors, je commence. Oui. Alors, bon, c'est le grand classique de Fellini, La Dolce Vita.
Ah, ben oui. Mm-hmm.
C'est à 20h50 sur Ciné Plus Classique. Vous savez ?
C'est vrai.
Marcello, come here.
Come here.
Et pour ceux qui aiment Fellini, vendredi, il y aura en plus La Strada avec Giulietta Masina et Anthony Quinn. Voilà.
Moi, j'ai un petit podium sur Clo-Clo, sur Ces Stars. Que j'avais bien aimé, c'est frais, c'est marrant.
Ouais, c'est marrant. Oui.
Pour mercredi, j'ai sur Arte à 20h55 un très très chouette film qui s'appelle La Religieuse de Guillaume Niclou avec Pauline Étienne, Isabelle Huppert et Louise Bourgois.
D'accord.
Qui est une adaptation d'un texte de Denis Diderot d'Ivoire. La Religieuse.
Ah, ben oui, La Religieuse de Diderot, voilà. Bien sûr. Jeudi.
Ben j'ai rien, moi, jeudi.
Moi, j'en ai un.
Moi aussi.
C'est vraiment pour se marrer.
Allez-y.
Le Flic de Beverly Hills.
Ouais, voilà, pour se marrer,
oui,
d'accord.
Alors, d'accord.
C'est où ça,
C'est sur Paris 1ère à 21h.
Okay. D'accord.
Et voilà. Vous
Moi, à 20h55, si vous avez Polar Plus, on n'est pas peut-être nombreux à l'avoir, mais il y a un film dont vous parliez tout à l'heure, Anne-Lise, Plein Soleil de René Clément.
Ah oui.
Avec
ben
Delon,
oui.
Mon,
tout à fait à voir.
Maurice René et puis Les Yeux Magnifiques de Marie Laforêt. Voilà.
Voilà. Et vendredi.
Moi, j'ai rien du tout.
Moi, j'en ai un petit.
Allez.
Un petit pour enfants, Dragon sur Gulli à 21h05.
Oh, c'est joli,
c'est mignon et ça se laisse voir avec plaisir.
C'est japonais, non ?
Non, c'est américain.
Il n'y a pas mignon.
DreamWorks.
Moi, j'ai Des Sentiments de Noémie Lovski avec Nathalie Baye, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Carré, Melvin Poupeau. C'est une variation sur le thème éternel des sentiments, sentiments croisés, machin, le Marivaudage, quoi.
Oui, très bien.
C'est très, très. C'est
après Diderot, Marivaud.
Oui, Marivaud, Diderot, on va faire tout le théâtre. Samedi ?
Oui. Samedi, moi, j'ai rien.
Moi non plus.
Non, samedi, j'ai rien.
Dimanche, alors, on passe directement.
Dimanche.
Ah si, attendez, parce que j'en avais encore, moi, vendredi.
Dimanche.
On est déjà à dimanche.
Bon, on est déjà à dimanche.
Dimanche, j'en ai deux.
Allez-y.
Moi, j'ai Marche à l'ombre.
Oui, alors, bon, d'accord.
Qu'on a déjà vu 50 milliards de fois sur C8 à 21h10.
Ouais.
Sinon. Autre.
Oui.
La bataille des Ardennes, Anakin, avec tout un tas de comédiens bien connus en 65.
D'accord. Moi, j'ai Speed sur Citer, parce que j'aime beaucoup le comédien principal.
Keanu Reeves.
Mmh. C'est mon chouchou.
D'accord.
Vraiment,
c'est l'histoire de ce bus qui roule à 80,
qui peut pas s'arrêter.
Il
est très bien fait, le premier en tout cas. Ça, c'est le 1, donc il faut voir le 1, le 2 est pas terrible, mais celui-là est vraiment, vraiment sympa. On passe à c'est un polar, c'est une sorte de thriller, comme
Okay.
Ça fait peur.
Alors, on est à lundi. Moi, j'en ai un lundi.
Ah,
oui,
allez-y. Enfin,
cachez votre joie. Ce sera sur Ces Stars à 21h10. L'adversaire de Nicole Garcia.
Ah, oui.
Vous savez, ce film qui s'inspire de la vie de Jean-Claude Romand
avec Daniel Auteuil.
Qui avait trompé tout son monde en faisant pas croire qu'il était
médecin.
Il était médecin, c'est ça.
Pas de boulot. Oui. Et qui assassine tout le monde à la fin. Oui, avec Auteuil, avec Cluzet. Et c'est le dernier film d'ailleurs de Bernard Fresson.
D'accord.
Qui est décédé deux mois après la sortie du film.
D'accord.
Ça, c'est à 21h10 sur Ces Stars, c'est tout pour moi.
Ouais. Moi, j'ai Astérix et Obélix Mission Cléopâtre sur TF1.
Ah oui, j'aime quand c'est un peu moins plus calme.
Voilà,
d'accord,
tout à fait.
Très bien.
À voir.
Voilà, c'est fini.
Oui, bien sûr.
C'est fini.
Bon, c'est fini.
Eh bien, écoutez, Ciné-Sens, c'est fini aussi.
Oh, bah non.
Oh non.
pour aujourd'hui. Car nous reviendrons, c'est promis, et ce dès mardi prochain, où pour notre 18e épisode, nous plongerons dans l'univers complexe de la cellule familiale, de ses bonheurs, mais aussi de ses mésaventures.
Et alors figurez-vous que ce sera sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres en podcast sur le site d'O2 Radio, ainsi que sur celui du Centre culturel Château Palmer, et bien sûr sur les réseaux sociaux. On va se quitter provisoirement avec Jacques Dutronc qui en 73 nous chantait Gentleman Cambrioleur. Allez, à mardi prochain en attendant,
bon vent à tous.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure.